Jeudi 10 juin 2021, à l'appel du Syndicat national des psychologues, se tenait devant l'ARS un rassemblement pour défendre la profession et contribuer au respect des conditions assurant la pérennité d'un exercice professionnel dans l'intérêt de la population. Le Syndicat national des psychologues avait réuni ce jour des psychologues salariés, des psychologues du libéral, des psychologues venant du milieu associatif, mais également de CMP ou d'hôpital public, des psychologues venant du milieu pénitentiaire également. Sans être exhaustif, voici leurs revendications. Retrait de l'ensemble des projets et mesures annoncées. Inscription dans un véritable projet social de santé publique respectueux des psychologues et des personnes qui les consultent. L'appui sur un code de déontologie reconnu par la profession. Le rejet du modèle des expérimentations CNAM, du chèque psy, du forfait 100% enfant, de la formule TND, et de toute forme de paramédicalisation. Le rejet de toute méthode ou technique imposée par l'État. Le rejet de l'imposition d'une durée fixe de consultation. Des tarifs décents dans le cadre des remboursements des consultations. Un libre accès des psychologues pour le public. Un lien de concertation avec les médecins et non un lien de subordination. La pluralité des méthodes et le pluralisme des références théoriques. Défendu. L'autonomie du choix par le psychologue et l'indépendance professionnelle pour ceux-ci. L'allongement des études sous la forme d'un doctorat professionnalisant, le maintien de la mention psychologie clinique dans le cursus, une organisation cohérente nationale par la profession, la reconnaissance officielle de postes de psychologue avec responsabilité, mais aussi des recrutements dans les institutions avec une revalorisation salariale. Et enfin, des fonctions de coordinateur pour soutenir le projet psychologique des établissements et pour mieux défendre leurs revendications. La demande selon laquelle le Syndicat national des psychologues exige que les décisions soient prises avec les professionnels et non pas sans eux. Le Syndicat national des psychologues a été créé en 1950 et a pour objet la défense des intérêts des professionnels et de la profession. Il représente l'ensemble des psychologues, quel que soit leur mode et champ d'exercice. Il est l'interlocuteur principal auprès des instances et partenaires. Ils étaient reçus à 16h à l'ARS. En attendant ce rendez-vous, ils étaient nombreux et nombreuses, accompagnés par la phare de lutte, prêts à nous expliquer leurs revendications. Voici leur témoignage.
Aujourd'hui, le parcours de soins et de remboursement qui est proposé, je ne le trouve pas satisfaisant ni pour les professionnels de soins, les psychologues, ni pour les patients, parce que c'est, pour eux, ça va être compliqué.
Pour quelles raisons, d'après vous ?
Déjà, alors, l'âge des patients concernés, c'est 18-60 ans, donc il y a un âge. Alors, à 17 à 61 ans, ça doit changer. Et puis, on leur propose, c'est un premier rendez-vous, une première consultation. Non, ils doivent aller rencontrer leur médecin traitant. Ensuite, le médecin traitant va faire une prescription pour des séances chez un psychologue. Donc, 10 séances de 30 minutes. Donc, et puis, c'est une... les psychologues, on a besoin d'un petit peu de temps pour comprendre ce qui se passe chez un patient. Et derrière un trouble dépressif, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et ensuite, après ces 10 séances, il doit retourner voir un psychiatre après. Et c'est là que le parcours doit se compliquer pour lui, parce que les psychiatres, ils sont chargés. Aujourd'hui, mes patients, je les envoie voir un psychiatre, ils ont 6 mois d'attente. Et ensuite, ils vont avoir droit, si le psychiatre valide, de nouveau 10 séances. Enfin... Ouais, c'est un peu bizarre.
Ça dévalorise un petit peu votre évaluation aussi en tant que psychologue, s'il y a besoin d'un rendez-vous psychiatre ensuite pour revalider ou non des séances, vous pouvez peut-être établir vous-même s'il y a besoin encore de ça.
En fait, derrière chaque pathologie, on ne sait jamais combien de séances il y a besoin. Parfois en 5 séances, le patient a avancé. Parfois, il va mettre un an. Deuxièmement, il va devoir du coup se livrer, évidemment à son médecin traitant. Nous, on va devoir aussi rendre compte à son médecin traitant et ça... Normalement, on est soumis à un secret professionnel, sauf si le patient est en danger, bien sûr. Mais il y a plein de choses qui dysfonctionnent. Après, le montant des consultations ne permettent pas à un psychologue en libéral de vivre. 22 euros la demi-heure. C'est-à-dire qu'en sachant qu'il va lui rester 5, 7, peut-être 7 euros à la fin. Donc, vous pouvez voir deux, ça fait 14 euros. Sachant qu'il n'a pas une continuité dans toute sa journée, qu'en fin de journée, écouter la souffrance des autres, on a aussi une limite. On n'est pas des machines, on n'est pas dans un travail où... où on peut empiler ou travailler beaucoup plus, en fait. Donc, ouais, tout est inquiétant. Après, il y a d'autres personnes qui travaillent dans des services et ils sont inquiets pour leur service en tant que salariés aussi parce qu'il y a des modifications qui sont demandées. Moi, je ne les connais pas, celles-là. Mais je trouve que... Enfin, en fait, finalement, ils ont réussi à mettre tout le monde, tous les psys inquiets et en colère parce qu'aujourd'hui, Je pense qu'on est une profession qui avons accepté beaucoup de choses, on n'a trop rien dit. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'exprimer.
Vous êtes psychologue depuis combien de temps et en libéral ou en...
Alors moi, je suis salariée et je fais du libéral, les deux. Pour pouvoir en vivre, justement, parce qu'en vivre en libéral, c'est pas facile. Et donc, depuis 15 ans, voilà.
En XAPA et aussi en libéral.
XAPA, c'est...
Alors, centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie.
D'accord. Donc, c'est des services essentiels à la société, quand même.
C'est ça, oui. Oui, oui. Et nous, on est un XAPA associatif. On ne fait pas partie de la fonction publique. Voilà.
D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que vous portez un petit panneau « Profession en voie d'extinction » ? Parce qu'on dirait pourtant que beaucoup de gens sont en détresse et que le métier de psychologue est essentiel et non pas en extinction.
Il y a énormément de gens en détresse aujourd'hui. On peut s'en rendre compte, nous, sur les cabinets en libéral, parce qu'on est engorgé de demandes. Maintenant, là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un dispositif qui est hyper maltraitant et pour les patients et pour nous, psychologues, dans nos pratiques. On ne peut pas tolérer une médicalisation de notre métier. On laisse les gens sans la possibilité de pouvoir choisir leur psychologue, leur thérapie. Et c'est scandaleux. Et en tout cas, moi, ma position du libéral, c'est que je n'ai pas envie, moi, de venir en substitution à la fonction publique, parce que l'argent, c'est là qu'il faut le mettre, en fait. Voilà, les CMP ont des délais d'attente qui sont innommables. Nous, sur Valenciennes, on est à 18 mois d'attente. Voilà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là.
Donc oui, c'est vraiment pour les mêmes raisons. Donc, ça peut, on a des listes d'attente qui s'allongent, on a des personnes qu'on n'arrive pas à prendre en charge, on manque de moyens et on n'arrive pas à orienter vers l'extérieur. Et on aimerait bien avoir des moyens supplémentaires, surtout du renfort au niveau humain, hein, des psychologues en plus. Donc,
Dans ce moment où beaucoup de monde est en détresse psychologique, pas seulement à cause de la crise sanitaire, mais à cause de beaucoup de questionnements sur la société, avec les problèmes du climat, etc., on n'a pas l'impression que la profession de psychologue est en extinction. Et pourtant, c'est ce qu'on voit sur les panneaux autour de nous. Pourquoi ?
Alors moi, je vous mets au défi, bien que les gens, bien qu'on vous dise que tout le monde a besoin de psychologue, je vous mets au défi d'en trouver un facilement. C'est-à-dire que oui, la profession est en extinction, c'est-à-dire c'est toujours ces effets d'annonce où on dit aux gens, ben, allez voir, il y a même eu des pubs hein, récemment, en disant parlez-en à vos proches, allez voir votre psycho, etc. Et moi actuellement, dans le CMP où je travaille, les gens qui aujourd'hui font une demande seront pas reçus par un psychologue avant un mois et demi et on est parmi les mieux lotis. Sur l'île, je crois que ça doit être 3 mois, etc. Donc,
vous êtes où, vous ?
Je suis à Valenciennes.
Et vous êtes combien ?
Alors, sur Valenciennes, c'est 3 secteurs psychiatriques. Donc la psychiatrie, elle est sectorisée. C'est à chaque fois des bassins d'emploi de 70 000 personnes. Et on est sur 3 secteurs psychiatriques. On doit être 4 psychologues. Enfin, l'équivalent de 3 temps plein par secteur. Donc, à peu près, donc une dizaine de psychologues pour la psychiatrie adulte.
Il y en a quasiment autant. En CMP ?
Voilà, en CMP. CMP, hôpital, etc.
Et hôpital aussi, inclut tout le public.
Oui, c'est-à-dire qu'on fait un peu tout, quoi. C'est comme les psychiatres, c'est la même chose. Les psychiatres sont à la fois au CMP, à l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital général pour faire de la liaison, etc., etc.
C'est dommage qu'il y ait autant d'étudiants de licence 3 qui sont rejetés du master, parce que le master est très sélectif. C'est un vrai entonnoir, les études de psychologie.
En fait, les masters, ils sont... Après, en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. C'était en fonction aussi de l'employabilité des gens. C'est-à-dire, c'est pas forcé que les gens soient formés et qu'ils puissent avoir après des postes. Donc, c'est aussi dommage qu'à un moment donné, les gens aillent jusqu'au bout de leur formation, donc master 1, master 2, d'avoir... Donc, des fois, ils prolongent par un doctorat et, en fait, se retrouvent sans emploi. Donc, là aussi, vous allez pouvoir trouver... des psychologues qui sont psychologues mais qui ne peuvent pas travailler, qui ne font pas leur métier.
Sur l'échec psy, en fait, le problème, ça a été qu'on n'a pas été du tout consulté et qu'on a appris ça, enfin pour ma part, j'ai appris ça sur les réseaux sociaux. J'ai voulu m'inscrire sur le dispositif pour faire partie des psychologues qui étaient remboursés. Et là, à ma grande surprise, au lieu de juste m'inscrire à un dispositif, j'ai dû répondre à un questionnaire, justifié de mes diplômes, justifié de mes compétences. L'équivalent de si on demandait à un médecin, est-ce que vous savez que pour la douleur, il y a du doliprane, quoi. Donc que c'est quand même très humiliant. Et en plus, derrière ça, on se rend compte que le chèque psy sera remboursé non pas par la Sécurité sociale, mais par les universités elles-mêmes. Quand on connaît un peu le fonctionnement des universités, on sait que voilà, ça va prendre du temps, que ça va être compliqué. Voilà. Et au-delà de ça, on a un chèque de 30€ pour une séance qui, normalement, coûte 50 à 60 euros. Nous, derrière, on a des charges. C'est l'équivalent de bosser pour moins de 15€ de l'heure, alors qu'on a un bac plus 5, que c'est pas très honnête, quoi. En tout cas, c'est pas très satisfaisant ni pour les psychologues, ni pour les étudiants qui sont un peu floués dans leurs informations. On leur dit qu'ils ont des chèques pour aller voir un psy, et en fait, pas du tout. C'est pas ça qui se passe.
Puis peu de psy, du coup, soit vous aménagez votre emploi du temps, j'imagine, pour pas en prendre trop non plus dans le mois pour que ça se rééquilibre, vont être refusés par certains psys tout simplement parce qu'ils préfèrent prendre leurs patients.
Oui, pour ma part, moi j'ai refusé. En voyant le dispositif et en voyant le questionnaire à remplir, j'ai refusé d'y participer. C'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est le gouvernement qui prend la couverture de « oui, on va aider les étudiants qui sont en souffrance ». Enfin, c'est un peu facile, quoi. C'est un des éléments qui nous ont mis en colère. Il y en a plein d'autres.
Est-ce que tu veux m'en dire encore un autre ?
Par exemple, le parcours un peu compliqué qui se pose pour le patient, qui doit d'abord aller voir son médecin pour avoir une prescription d'évaluation psychologique. Et une fois qu'on a fait l'évaluation, le patient doit retourner voir son médecin, lequel doit prescrire un certain nombre de séances, alors que nous-mêmes, psychothérapeutes et psychologues, on n'est pas en mesure de dire combien de séances il va falloir en début de prise en charge. Donc c'est limiter l'action du psychologue, c'est compliquer le parcours pour le patient, c'est ni fait ni à faire, quoi.
Et est-ce que le docteur établit le nombre de séances après avoir lu le rapport, le préliminaire, le premier rapport du psychologue ?
Alors, de la psychologue ? Pour ça, on est dans le flou aussi, parce que en fait, moi, je n'ai pas vu d'informations sur l'échange entre le médecin et le psychologue, en sachant que de toute façon, concrètement, dans la vraie vie, on passe par le travail avec les médecins. On est obligé, c'est eux les premiers à orienter les patients. Et ajouter des termes d'obligation à ça, c'est juste compliquer le parcours pour ceux qui ne peuvent pas passer par leur médecin, qui ont déjà du mal à faire la démarche d'aller consulter un psychologue et qui ne sont pas forcément disposés à expliquer leurs difficultés, leurs souffrances à un médecin qui, de toute façon, n'est pas qualifié pour l'entendre. Voilà.
Et parmi vous êtes psychologue en libéral, en service hospitalier ?
Je suis psychologue en libéral, oui, à Lille.
Et du coup, vous avez une longue liste d'attente quand quelqu'un veut vous faire appel à vous, avoir une consultation ?
Non, en général, on trouve un créneau dans les 15 jours.
Et alors, est-ce que vous avez observé une recrudescence de patients depuis cette année particulièrement ?
Oui. Oui, l'impact du confinement, du Covid en général, oui, on le voit tous les jours dans les nouvelles demandes. Même si c'est des demandes qui ne sont pas spécifiques au confinement et au Covid, il y a quand même un impact de cette période-là sur tout le monde.
Je vous remercie. Est-ce que vous voulez m'expliquer encore pourquoi les psychologues sont en colère ? D'autres points qui...
Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on n'est pas du tout opposé au remboursement. Au contraire, on demande ça depuis des années. Maintenant, il faut que ce soit bien fait, quoi. Parce que là, on est sur une base de, je crois que c'est 22€ la demi-heure. En une demi-heure, on ne fait rien. Et avec 22€, on ne mange pas. Enfin, voilà. Concrètement, on est relayé à une profession sans qualification, alors qu'on a quand même un bac plus 5 et que ça doit être reconnu à un moment donné. Voilà, juste ça. On n'est pas opposé au remboursement, pas du tout, au contraire. Mais il faut que ce soit bien fait.
Aujourd'hui, il y a un mouvement national pour la défense des psychologues parce que la population va mal et le président a décidé d'y répondre avec des mesures avec lesquelles on est en désaccord. Devant la souffrance des gens, le gouvernement a mis en place plusieurs projets de loi qui attaquent un peu le statut des psychologues et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de psychologues qui se mobilisent aujourd'hui contre ça. Principalement, il y a une création d'ordre des psychologues qui va être discutée à l'Assemblée en octobre. Et donc, on est contre les ordres en particulier. Il y a eu d'abord l'ordre infirmier, maintenant c'est l'ordre des psychologues. C'est souvent un ordre, ça sert à des cotisations et à sanctionner les agents et les personnes qui ne respectent pas les règles ou qui n'ont pas les bonnes pratiques. Et du coup, nous, on estime qu'il y a déjà des instances pour ça et que c'est pas la peine de rajouter un ordre qui va pas améliorer du tout les choses. Ensuite, ce qui fait beaucoup débat, c'est la libéralisation des psychologues, notamment les psychologues en libéral. Et du coup, là, il y a un projet de loi qui est sur la table pour le remboursement des consultations des psychologues. Et ça, c'est une grosse attaque au statut parce que les psychologues ne sont pas paramédicaux aujourd'hui. Et là, dans la proposition de loi, les psychologues seront remboursés avec des sommes modiques de 22 € pour des consultations de 30 minutes, interdiction de dépasser les honoraires. Et on va être paramédicalisé, alors que là, on est autonome et qu'on décide tout seul. Et là, on va être dépendant des médecins traitants. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'il y a une grosse colère. Dans la fonction publique, il y a eu le Ségur de la Santé qui a revalorisé les salaires. Et les psychologues en sont exclus, comme beaucoup de membres du personnel qui ne sont pas les soignants. Et après, il y a tout le médico-social, les associations, etc. aussi. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est des moyens, à augmenter les moyens. Il y a une crise sanitaire. Il faut augmenter les moyens dans l'hôpital et pas le détruire et diminuer les moyens comme c'est fait actuellement. Parce que là, les propositions par rapport à la souffrance, c'est de proposer des consultations au rabais sous tutelle médicale, alors que nous, on veut des embauches dans les structures de l'hôpital public, le médico-social et les associations.
Et que je comprenne bien, quand vous dites une demi-heure, 22 €, c'est déjà compté d'avance comme deux fois une demi-heure, donc des séances d'une heure, ou vous devez vraiment faire des séances d'une demi-heure? Ça paraît absurde au niveau suivi d'un patient.
Tout à fait, nous en général on consulte 45 minutes ou une heure, donc c'est un non-respect des patients quand il y a une proposition comme ça. Le tarif aussi indécent à 22 € la demi-heure, c'est 30 € la première consultation, et il y a beaucoup de contrats à rendre aux médecins traitants. Ce qui fait perdre l'autonomie, on devient un peu des kinés, même si je respecte les kinés. Mais là, nos statuts nous permettent d'être autonomes et de faire ce qu'on veut. Et là, on va dépendre d'un médecin qui nous dira quoi faire et comment faire. En plus, le projet de loi, il prévoit des remboursements que pour les 18-60 ans. Donc si vous avez plus de 60 ans, bah, vous devrez payer. Et en plus, ça concerne qu'une partie de troubles, c'est les anxio-dépressifs. Et donc les gens qui ne présentent pas ces troubles-là, bah, ils n'auront pas le droit non plus au remboursement.
Ah oui, ça c'est peu dit quand on voit le tintouin qui est fait autour de ce chèque psy pour les étudiants. On ne se rend pas compte du tout que c'est seulement un vernis à ce point. Parce que si il faut un certain type de pathologie pour être remboursé, on est dans de la bureaucratie froide.
C'est ça. Et du coup, c'est aussi une atteinte, enfin c'est une, comment dire, une médicalisation un peu de la psychiatrie et de la psychothérapie, parce que selon l'orientation qu'on a, nous on n'est pas pour les diagnostics ou pour les catégories de diagnostics, et on voudrait que ça soit ouvert à tout le monde, quel que soit son trouble, et pas qu'il soit casé avec des diagnostics scientifiques où il y a des courants de thérapie qui ne sont pas forcément là-dedans, et là ça les empêche de pouvoir bénéficier de ces consultations. Par exemple, une thérapie de couple, on n'est ni anxieux ni dépressif, mais on n'a pas le droit d'être remboursé.
Ça n'a aucun sens de conditionner les soins psy au type de pathologie qu'on a eue. Une pathologie n'est pas suffisamment... Celle-ci n'est pas suffisamment grave. On va considérer qu'il faut aller jusqu'à être vraiment anxieux. On va avoir des cas de personnes qui virent vers l'anxiété à cause de ce genre de problème. On ne peut pas résoudre un problème de couple, le trouble anxieux peut s'installer, quoi.
C'est ça, mais malheureusement, c'est tout à fait dans l'air du temps. On est beaucoup dans les diagnostics et dans des thérapies efficaces selon le diagnostic qui est défini en amont par un médecin et avec un nombre de séances prescrites, comme si on pouvait prévoir à l'avance combien de temps il fallait pour aider quelqu'un qui ne va pas bien. Et ça fait partie de ces dérives un peu scientistes d'essayer de catégoriser tout ça.
Planifier de manière bureaucratique, en amont, a priori.
Surtout que l'idée, c'est quand même toujours la réduction des coûts et diminuer les moyens. Le but, c'est que ça coûte le moins cher possible. Donc quand on peut prévoir à l'avance, on s'imagine que ça va permettre du coup de faire des économies, etc. C'est ça qui est derrière aussi quand même l'enjeu. Et voilà.
Donc moi je m'appelle Fanny et on est quelques-unes à représenter en fait le service obésité de l'hôpital privé La Louvière, à quelques mètres d'ici. Non, on est dans le privé. Alors c'est étonnant parce que sur certaines choses on n'a pas à se plaindre, on est 5 psys pour un service, on est en CDI. Et pourtant, tout ce qui est consultation individuelle, c'est pas du tout valorisé. Donc on est quasiment sur des HDJ de 30 minutes où il faut enchaîner les patients. On fait beaucoup d'ateliers thérapeutiques et on n'est même plus en capacité de faire des suivis, donc on les oriente vers l'extérieur, vers les CMP qui sont bondés, vers les libéraux qui sont bondés aussi, ou que les patients ne peuvent pas financer. Donc voilà, je voulais témoigner juste pour dire que même en privé, on peut avoir certains conforts et finalement le patient n'est quand même pas bien accompagné, quoi. Voilà.
Moi, je voulais faire un parallèle qui vaut sur la façon dont on veut chiffrer les choses. Il y a dans les entourages des ministres, du président de la République, beaucoup de grands, de scientifiques durs, de scientifiques purs, où on demande en fait. Si je vous raconte ça, c'est que j'ai essayé de postuler à leur plateforme TND il y a quelques mois et je me suis rendu compte qu'en fait, on attendait de moi du testing, donc mettre un chiffre sur la tête des enfants. J'ai juste dit que les enfants, c'était pas que des chiffres, que nous autres psychologues, on n'était pas que des experts avec une technique, qu'on avait aussi une approche humaine, et que si, là, je pense qu'on est en train de prendre la direction, et on le voit aussi avec le Covid, on compte les morts, tous les jours, on a des statistiques, on a un nombre de morts, etc. On est en train de prendre une voie de plus en plus technicisante, scientifisante. Je pense pas que le mot scientifique soit un mot péjoratif, hein, c'est au contraire. Mais vraiment la scientifisante au sens déshumanisante. Et je pense que c'est quelque chose de global qui touche nous psychologues. Et il faut vraiment qu'en plus, nous, qu'on résiste à ça, parce qu'on est vraiment les premiers concernés par cette déshumanisation et cette folie, cette obsession du chiffrage, de l'orientation, de l'étiquetage des gens, de la pathologisation à outrance. Je crois qu'il faut qu'on résiste à ça. Voilà.
Alors nous, on est ici pour, d'une part, représenter un petit peu toutes nos revendications sur le statut des psys de manière générale, une reconnaissance de notre métier et une considération un peu plus sérieuse de ce qu'on peut apporter à une société aujourd'hui, surtout en ces temps-ci. Et plus spécifiquement, on est là aussi pour représenter un peu notre métier au sein de l'administration pénitentiaire et le manque de considération qu'on a, en fait, en tant que, déjà dans notre statut, mais aussi dans le fond de notre métier, en fait. Donc aujourd'hui, on est peu nombreux. On essaie de se battre comme on peut.
Pourtant un métier essentiel, Laurie.
Oui, autant au niveau des personnels comme on agit auprès du public mais aussi auprès des personnels de l'administration pénitentiaire. Donc du coup on est quand même sur deux volets et qui sont extrêmement importants. C'est aussi la question de la contractualisation. Dans les propositions en fait de formation du corps, il n'y a absolument aucune des propositions qui ont été faites qui semblent être retenues. Nous, ce qui nous importe beaucoup aussi, ça serait la reprise en fait des personnes, des psychologues qui sont déjà en poste en fait, et de ne pas leur imposer après une mobilité qui n'a pas de sens, puisque si on était amené à passer un concours, même si on l'avait, on serait amené à ne pas pouvoir œuvrer sur nos postes actuels, donc ce qui est quand même quelque chose qui va avoir une refonte absolument incroyable, une homogénéisation aussi du traitement des psychologues. Les revendications, elles sont nombreuses. Il y a aussi la question du temps FIR. Enfin voilà, on pourrait la lister pendant un moment.
Et, le temps FIR ?
Le temps FIR, c'est le temps de formation individualisé et dont les psychologues peuvent bénéficier normalement à raison d'une demi-journée par semaine. Donc, ce qui représenterait 2 jours par mois, et ce qui est le cas pour d'autres administrations comme la PJJ, mais qui n'est pas encore appliquée en l'état actuel dans l'administration pénitentiaire.
Ce qui est peut-être aussi important à remarquer, surtout en ce moment avec tout le bruit qu'on fait sur les auteurs de violences conjugales, etc., c'est de noter la réelle expertise en fait, qu'au fur et à mesure on apprend en travaillant au sein de l'administration pénitentiaire, peu importe dans quel domaine on intervient, que ce soit en détention, au niveau du soin, au niveau de l'insertion, etc., des évaluations, etc. Cette expertise-là, elle mérite d'être reconnue, puisqu'on voit bien aujourd'hui que voilà, des fois aussi les problématiques psy le vécu un peu subjectif des peines a un impact sur les choses. Et ça, la pluridisciplinarité, c'est aussi une reconnaissance d'avoir des psychologues qui interviennent sur des situations et pas sur 1000 personnes. Pour l'instant, c'est un peu le chiffre aujourd'hui. C'est pas possible, quoi.
C'est un beau rassemblement aujourd'hui. Il y a plein de gens de services différents. Un orchestre. La fanfare de lutte. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir que quand même le combat est suivi?
Oui, 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 c'est sûr que même si on est en petit nom, je pense qu'à Paris, c'est un peu plus représentatif. En tout cas, ça fait plaisir de voir que toutes les institutions sont représentées, que tout le monde retrouve un petit peu ce même sens en fait, au combat qu'on donne aujourd'hui. Je pense qu'il était temps et ça fait plaisir, ouais, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ajouter à propos du, particulièrement du contexte pénitentiaire par rapport au contexte de santé ?
Bah là, par rapport au contexte de santé, c'est vrai qu'il y a, de manière générale, et c'est pas nouveau au sein de l'administration pénitentiaire, il y a vraiment une difficulté à prendre en charge de manière très poussée ces personnes-là, que ce soit sur l'insertion ou le soin. Après, je pense qu'il y a, sur le débat public, il y a aussi cette méconnaissance et ce jugement en fait, qu'on porte aussi sur les auteurs d'infractions, etc., et qui aussi joue là-dedans. Les enjeux politiques, on les sent bien. Il y a des injonctions qui n'ont pas de sens du tout. Et nous, on le ressent aussi du coup, dans notre métier tous les jours. Ce qu'on revoit, nous, ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est parce que ça ne vient jamais sur le débat public. La question des auteurs, c'est quelque part très déshumanisant. Donc on le ressent dans le soin, on le ressent sur eux, comment ils vivent leur peine, sur la stigmatisation aussi. Et quelque part, ça, c'est clair que...
C'est inquiétant parfois quand on entend notre ministre de l'Intérieur parler en termes de bons et méchants.
Oui, c'est un peu simpliste, ouais. C'est des humains. Voilà, c'est plus complexe.
Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ?
Moi, je pense que je voulais plutôt conclure. Je pense que voilà, il y a l'administration pénitentiaire aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres professionnels. Et je pense que l'important, ça semble être, en fait, comme ça a été conclu, une convergence des luttes, en tout cas pour la question du soin, être soudés, parce qu'au final, il y a les psychologues, mais il y a aussi il y a un ensemble, effectivement, il y a une refonte. Vraiment à penser et au-delà des institutions individualisées, il y a vraiment une question plus générale qui est posée sur qu'est-ce qu'on lèguera plus tard comment on peut faire ensemble aussi, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est très créatif, on n'est pas seulement ici pour dénoncer, mais il y a vraiment plein de propositions qui sont faites tout le temps par tous les professionnels et les réponses elles sont souvent... budgétaire ou sur la question du sens aussi, on ne se la pose pas beaucoup et du coup ça me semble très important qu'on puisse tous être dans le même bateau et qu'on puisse avancer ensemble vers cette quête de sens. Voilà.